Ce matin, j'ai décidé de vous parler des promesses de Dieu. Alors si j'ai mis un petit 1 au bout de ce titre, c'est parce que, Dieu voulant, peut-être que dans les prochaines prédications, je prolongerai ce thème. Oui, notre Dieu n'est pas seulement notre Créateur. Il s'intéresse à nous. Et il veut même faire partie de notre vie. C'est pour ça qu'il ne nous laisse pas seuls et qu'il tient à nous aider dans notre quotidien. Mais il ne nous impose rien. Il nous guide, il nous fait des dons et il nous encourage avec des promesses. Tout ça pour nous aider à surmonter les difficultés de la vie. Cependant, quelquefois, nous avons des problèmes avec la gestion de ces promesses. Des fois, en nous attribuant celles qui ne nous concernent pas, ou en interprétant à notre manière des textes pour les faire coller à nos propres désirs. D'autres fois, malheureusement, nous ne prenons pas ces promesses au sérieux et nous passons à côté des dons que Dieu met à notre disposition. Ou même encore, nous agissons comme si nous étions obligés d'aider Dieu à tenir ses promesses en forçant certaines choses. En tout cas, il est évident que la première condition pour nous attribuer une promesse de Dieu, c'est qu'elle nous soit destinée. Par exemple, dans la Bible, il y a des promesses qui sont faites à l'humanité tout entière, comme celles qu'on trouve dans le texte de Genèse 9, versets 11 à 13, où Dieu dit « J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit « C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » Cette promesse, elle est claire. Elle est même agrémentée d'un signe, l'arc-en-ciel, et chacun peut contempler à longueur d'année, après une averse, ce signe que Dieu nous a laissé. Dieu ne détruira plus l'humanité avec aucun déluge, il l'a promis. Pourtant, il ne faut pas mal interpréter cette promesse. Elle ne nous garantit pas contre les inondations ou contre les raz-de-marée. Dieu n'a pas dit qu'il n'y aurait plus jamais personne qui se noierait. Et malheureusement, nous le constatons à longueur d'année, des drames liés aux inondations surviennent dans toutes les parties du monde. Cet exemple simple vaut pour toutes les autres promesses. Nous ne pouvons pas adapter les promesses de Dieu à nos désirs propres. Il y a par contre des promesses qui concernent chaque être humain, personnellement, et que nous pouvons prendre pour nous sans aucune hésitation. Et c'est le cas de celles qu'on trouve dans Actes, au chapitre 2, les versets 38 et 39. Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Cette affirmation de Pierre le jour de la Pentecôte, elle est clairement destinée au-delà de son auditoire, à tous ceux qui se repentent et qui en témoignent en passant par les eaux du baptême, et cela, quelle que soit leur origine, quel que soit leur vécu, leur sexe, leur ethnie, et même quel que soit leur péché. Cette promesse-là, nous pouvons nous l'attribuer. Le Saint-Esprit est promis à tous ceux qui acceptent cette démarche. Mais pour cela, nous devons croire pour voir s'accomplir ce que Dieu a en réserve pour nous. Il existe des exemples dans la Bible où des hommes se sont privés des bénédictions annoncées par manque de foi, par manque de persévérance ou même parce qu'ils ont dédaigné l'offre que Dieu leur faisait. C'est le cas d'Akaz, roi de Juda, et on lit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 7, versets 10 à 23, « L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? » Quel mépris pour cette offre que Dieu avait envers Akaz. « Je ne demanderai rien. » Est-ce que c'est raisonnable ? Akaz aurait été bien inspiré de suivre les conseils de son ancêtre David, qui avait écrit dans le psaume 105, au verset 4, « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Matthieu 11, verset 12. Il y a aussi un autre cas, c'est un roi d'Israël, Joas, et on peut lire dans 2 Rois, chapitre 13, versets 15 à 19, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches !» Elle prit un arc et des flèches, puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main !» Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre, à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire !» Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches !» Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre !» Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. » Le roi est docile, il fait exactement ce qu'Élisée lui dit, point par point. Mais Élisée sent que il n'est pas volontariste. Alors, il lui dit de prendre une initiative. Frappe. Et timidement, Joas frappe trois fois. Un manque de détermination. C'est vrai que on pourrait dire, Joas a fait tout ce qu'on lui demandait. Mais dès qu'il y a eu pour lui à prendre une initiative, il est resté en deçà des promesses de Dieu. Pour que nous voyons s'accomplir les bénédictions de Dieu, non seulement il faut y croire, mais il faut s'en emparer. Cependant, même si une promesse de Dieu nous est destinée, et si nous avons la foi pour qu'elle s'accomplisse, notre comportement peut mettre des obstacles et en retarder l'accomplissement. Et pour illustrer cela, nous allons prendre un exemple très significatif dans le livre de la Genèse. C'est l'exemple d'Abraham. Et j'ai vu que dans le compte-rendu du conseil qui a eu lieu dans la semaine, Nathalie avait parlé aussi de cet exemple. Il s'agit d'une promesse phare de la Bible. Et même si Abraham ne peut pas comprendre toute la portée de cette promesse, eh bien, non seulement cette promesse est pour un peuple élu, mais aussi pour l'élu de Dieu par excellence, celui qui portera le rachat de l'humanité. Et nous lisons dans Genèse 12, versets 1 à 3, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse est nominative, sans ambiguïté. Abraham ne peut pas la prendre que pour lui. Elle remplit donc parfaitement la première condition. Elle est destinée à Abraham. C'est une promesse multiple. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. Et cette triple bénédiction est à double effet. Un effet personnel pour Abraham, mais aussi un effet collectif pour une nation et même pour l'humanité tout entière. Je ferai ton nom grand et précédé de « pour faire de toi un peuple, une nation ». Je te bénirai et suivi de « et je bénirai aussi ceux qui te béniront ». De toi couleront d'abondantes bénédictions et suivi de « toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Les bénédictions que Dieu destine à Abraham bénéficieront non seulement à sa descendance, à son peuple, mais aussi à l'humanité tout entière. Les bénédictions de Dieu, elles sont à partager. Et tout au long de la Bible, on constate que tout ce qui est donné à un homme ou à un peuple est destiné au bien commun. Les bénédictions de Dieu sont des cadeaux que Dieu nous offre, mais ils engagent notre responsabilité. Ils engagent la responsabilité de tous ceux qui les reçoivent. Et c'est une constante qui est valable également pour nous. Les bénédictions que Dieu nous donne ont un impact, doivent avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Dans le texte que nous avons lu, on voit que ces merveilleuses promesses sont précédées d'un ordre. Va-t'en de ton pays, ta patrie, de la maison de ton père. Et la suite du texte nous montre que Abraham a bien obéi. On ne peut pas prétendre à l'accomplissement des promesses de Dieu en refusant de suivre le cheminement qu'il nous donne. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, nous dit le texte. En prenant le chemin que Dieu lui avait indiqué, Abraham montre qu'il a foi dans les promesses de Dieu, et s'il avait attendu à Charan, il n'aurait pas obtenu ce que Dieu lui avait promis. Il remplit donc parfaitement la deuxième condition. Il croit pleinement à la parole de Dieu. Au moment de cette promesse, Abraham a 75 ans. Et c'est une invitation missionnaire qui lui est donnée. Et ce n'est que 25 ans plus tard qu'il verra s'accomplir cette promesse avec la naissance d'Isaac. Est-ce que Dieu a voulu tester la patience d'Abraham? Est-ce qu'il a voulu tester sa foi? Est-ce que cette longue attente est uniquement due à la volonté de Dieu d'éprouver Abraham? Personnellement, je ne crois pas. Je pense que le comportement d'Abraham a probablement retardé l'accomplissement de la promesse. Si Abraham est exemplaire dans bien des domaines, et particulièrement dans le domaine de la foi, puisqu'il est appelé le père des croyants, il a aussi commis des erreurs. Et ces erreurs ont peut-être empêché Dieu de répondre plus tôt. Suite à une période de sécheresse, Abraham fait ce que tous faisaient à l'époque, il se réfugie en Égypte. Pourquoi en Égypte? Parce qu'elle est traversée par le deuxième plus long fleuve du monde, le Nil, qui fait plus de 6600 kilomètres et qui traverse toutes les latitudes de l'Afrique, qui est donc alimentée aussi bien par les pluies tropicales du sud de l'Afrique que par les pluies tropicales du nord de l'Afrique. Donc, il y a toutes les saisons en même temps sur le Nil et il est rarement en baisse. C'est un fleuve qui est continuellement alimenté. Donc, L'Égypte bénéficie d'un arrosage constant, et chaque fois dans la Bible qu'il est parlé d'une famine, on voit les gens qui se précipitent en Égypte. Donc, Abraham va en Égypte pour pouvoir affronter cette sécheresse. Et quand il arrive en Égypte, Abraham craint que son épouse, qui pourtant a 65 ans, ne soit convoitée par les Égyptiens. Alors, il craint pas pour elle, il craint pour lui, pour sa propre vie. Il incite donc sa femme Saraï, qui est aussi sa demi-sœur, à faire un demi-mensonge et à dire qu'elle est sa sœur. On lit ce texte dans Genèse 12, versets 10 à 16. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme !» Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands pharaons la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Si Saraï avait été enceinte à cette période, on aurait pu penser que c'était le fils de Pharaon et non le fils d'Abraham. On ne connaît pas la durée de ce séjour en Égypte, mais l'attitude d'Abraham a retardé d'autant l'accomplissement de la promesse de Dieu. De plus, parmi les cadeaux de Pharaon, il y avait un cadeau empoisonné. En effet, il a reçu une servante du nom d'Agar, et cette servante sera elle aussi un piège pour le couple. En effet, comme les années passent, Saraï pense qu'il est définitivement exclu pour elle d'avoir un enfant et elle propose à son ami, à son mari, ce que tous les gens de l'époque font, ont la coutume de faire. Quand une femme est stérile, eh bien, elle propose à son mari d'avoir un enfant avec sa servante. En quelque sorte, ils veulent donner un petit coup de pouce à Dieu pour que Dieu puisse tenir sa promesse. Agar devient donc la mère d'Ismaël, et cet enfant est très vite un sujet de conflit entre eux. Et ce conflit, il va se perpétrer au cours des siècles, et on en voit encore les conséquences de nos jours. Nos plans de rechange n'accomplissent jamais la volonté de Dieu. Sans aucun doute, ce piège a été tendu par l'ennemi de Dieu. Celui qui en tout temps veut s'opposer au plan de Dieu et à l'accomplissement de ses promesses. Et c'est pas différent pour nous. L'ennemi, Satan, veut se mettre en travers de nos vies et nous empêcher de bénéficier des promesses que Dieu nous a faites. Et il utilise nos faiblesses et toutes les circonstances de la vie pour que nous passions à côté des bénédictions que Dieu a en réserve pour nous. Abraham avait ses faiblesses, nous avons les nôtres. Mais malgré tout, Dieu ne renie pas son appel. Et malgré les manquements d'Abraham, eh bien, Dieu renouvelle sa promesse. Il remet en quelque sorte le compteur à zéro. C'est ce qu'on lit dans Genèse 17, versets 1 à 5. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. » Et sois intègre. Sois intègre, est-ce que c'est une petite allusion au dérapage que Abraham a eu en Égypte? J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu dit, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Oui, Dieu lui demande « Sois intègre » et confirme à nouveau cette promesse en apparaissant sous la forme de trois personnes qui viennent auprès d'Abraham. Et c'est ce qu'on lit dans Genèse 18, versets 1 et 2. « L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes étaient debout près de lui. » Plus loin, au verset 9 et 10, « Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme ? » Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Cette fois, la promesse de Dieu, elle est sans délai. À cette même époque, tu auras un fils. Si Dieu ne lâche pas Abraham et maintient ses promesses, et s'il ne renonce pas à bénir Abraham, le diable ne lâche pas non plus. Et parce qu'il ne veut pas justement que les promesses de Dieu se réalisent, parce que lui sait tout ce qu'il y a derrière ses promesses, il utilise le même piège qui avait déjà si bien marché en Égypte. Et on lit dans Genèse 20, versets 1 et 2, « Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Abraham n'a pas pris leçon de ce qu'il a vécu en Égypte. Il continue dans les mêmes travers, le même mensonge. Et cela pourrait à nouveau retarder l'accomplissement de la promesse. Mais Dieu ne le permet pas. Il ne permet pas qu'Abimélec commette un adultère avec Sarah et qu'il y ait le moindre doute sur la paternité d'Abraham à la naissance d'Isaac. On lit la suite du texte. « Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur ? Elle, ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Et au verset 9 et 10, Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé ? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Comment Abraham, qui est pourtant devenu Abraham, a-t-il pu commettre le même mensonge, avoir le même comportement inavouable qu'il avait eu quelques années plus tôt ? Les humains ont leurs points faibles et Satan les exploite. Et nous-mêmes, malgré notre nouvelle naissance, malgré notre nouveau nom, il nous arrive peut-être de retomber dans les mêmes ornières, dans les mêmes travers que nous avons déjà connus et contre lesquels nous avons déjà dû lutter. Enfin, peut-être pas vous. Quel contre-témoignage ! Quel contre-témoignage pour Abraham qui est porteur des promesses de Dieu, qui se fait reprendre par un étranger ? Ça vous est déjà arrivé d'être pris en défaut devant un non-chrétien ? Ça fait mal. Dieu a fait dans la Bible des promesses qui nous concernent. Il peut même nous en avoir fait personnellement dans nos moments d'intimité avec lui. Nous ne pouvons pas faire comme Akaz et dire « Je ne demanderai rien ». Il a dit « Je ne demanderai rien » et il n'a rien obtenu. Ou comme Joas, ne pas prendre d'initiative. Il n'a pas pu se débarrasser définitivement des Syriens, de ses ennemis. Nous pouvons aussi faire comme Abraham, croire, obéir, mais agir dans la peur et ainsi se laisser manipuler par l'ennemi. En ce qui concerne Abraham, ça lui a coûté 25 années d'attente. 25 années où il pensait que Dieu l'avait peut-être oublié, alors que peut-être c'était ses mensonges qui retardaient l'accomplissement de la promesse et de la solution pour lui. Ces alternatives avec Agar, toutes ces choses, n'ont fait que retarder l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu, patiemment, l'a conduit, l'a formé pour faire de lui Abraham, père d'une multitude. Ne passons pas à côté des promesses de Dieu, par peur, par manque de foi, par timidité. Emparons-nous de ce que Dieu nous offre et rappelons-nous de ces paroles de Pierre que nous avons déjà lues dans Actes 2:38. Pierre leur dit « Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous recevrez le don du Saint-Esprit et la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que nous nous sommes emparés des promesses de Dieu? Alors, en résumé, pour nous attribuer une promesse de Dieu, il faut qu'elle nous soit destinée. Pour recevoir une promesse de Dieu, nous devons croire pour voir s'accomplir ce que Dieu nous a en réserve pour nous. Les bénédictions que Dieu nous donne, elles doivent avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Et est-ce que je me suis emparé des promesses que Dieu m'a faites, nous a faites? C'est formidable d'avoir les promesses de notre Dieu créateur, mais c'est encore plus formidable de les prendre, de les utiliser. Est-ce que ce Saint-Esprit que Dieu a mis en nous, il nous l'a mis, il nous l'a donné. Est-ce que nous le laissons agir ou est-ce que nous l'empêchons d'agir? Par timidité, par crainte, par manque de foi, par... Alors, je me pose cette question à moi. Peut-être que des fois, ça marche. Peut-être que des fois, je mets une cloche sur ce Saint-Esprit et je ne le laisse pas agir. Mais tout est accompli pour que nous ayons cette foi, cette vie. Ça ne dépend pas de notre capacité, ça dépend de notre obéissance et de notre foi. Merci Seigneur pour ce que tu donnes, pour les promesses que tu nous as faites. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as offert et qui agit. Il agit, quelquefois même malgré nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas seulement créés, tu ne lâches pas d'affaire. Et malgré nos égarements, malgré nos chutes, tu tiens tes promesses. Tu passes par-dessus nos égarements et tu nous appelles à nouveau. À chaque fois que nous dérapons, tu nous appelles à nouveau. Et tu maintiens ta promesse. Merci Seigneur pour cette promesse. Merci pour ces promesses. Merci pour ton action. Et merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.